Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai commencé une série de sermons sur les vices de notre époque, les vices des chrétiens. Nous sommes à une époque tellement difficile, qu'il y a tellement de mal partout, qu'il est très facile de voir le mal ailleurs et de ne pas nous regarder nous-mêmes. Il y a un danger de durcissement, comme il y a eu un obscurcissement, un aveuglement. Or, je suis allé chercher, on pourrait faire des grands sermons sur la charité. Je l'ai cherché dans des auteurs concrets. 9 degrés de la charité envers le prochain. Chez un auteur que j'aime bien, Pinkers, qui a vraiment renouvelé pour notre époque le sens de la morale. Alors, il commence Pinkers en disant « Tout ce que je vais vous dire, tout le monde l'admet, tout le monde est d'accord. » Mais il dit « Ce n'est pas d'être d'accord qu'il faut, c'est d'en tenir compte. » Premier degré, admettre que le prochain est un défaut. Tout le monde est d'accord que le prochain a un défaut. Mais ce n'est pas admettre, c'est accepter. Mais personne ne l'accepte. Tout le monde sait que le prochain a un défaut, mais personne ne l'accepte. Or, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu que le prochain est un défaut. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, et pourtant c'est dans le plan de Dieu. Le péché d'Adam et Ève n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'Adam et Ève pêchent. Et pourtant, c'était dans son plan. Comme beaucoup de choses. Combien de choses nous utilisons, et celui qui a fait une machine sait très bien que nous n'allons pas l'utiliser comme il faut. Il essaye de parer au problème, mais c'est pour qu'il veuille que nous l'utilisions mal, mais il sait très bien que ça va... On va finir par faire une bêtise et casser le moteur. Alors il essaye que le moteur ne casse pas trop vite, mais... Bon, Dieu avait mis ça dans son plan. Il faut l'accepter. Et puis Dieu ne veut pas que le prochain ait un défaut, ou fasse des péchés. Mais c'est dans le plan de Dieu, et c'est voulu par Dieu, que les conséquences soient pour nous. Ça, c'est voulu par Dieu. Deuxième degré, accepter que notre frère ait 2 défauts. Bon, je ne vais pas vous faire le troisième degré, accepter qu'il ait 3 défauts, vous avez compris. Notre frère n'est pas parfait. Admettre que nous avons 1 défaut. Et c'est souvent celui que nous reprochons au prochain. Parce que dans ce domaine, les semblables se repoussent. Le colérique ne supporte pas qu'on se mette en colère. Le bavard ne supporte pas les bavards qui l'empêchent de parler. Les gourmands ne supportent pas les gourmands qui prennent la plus grosse part de tarte qu'ils voulaient prendre. Et ça, mon père me l'a dit souvent, il dit « Fais attention, quand tu critiques, très vite tu verras que tu tombes dans la chose que tu as critiquée chez autrui. Très vite, c'est systématique. » Quatrième degré, accepter que les autres nous corrigent. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, qu'ils le fassent adroitement ou maladroitement. Vous avez des médecins délicats et des médecins non délicats. Ce n'est pas sur la délicatesse du médecin qu'on le juge. On le juge sur sa qualité à soigner. On préfère qu'un médecin soit délicat quand il soigne. Si nous avons des défauts, nous devons être heureux qu'il nous soit corrigé. Alors le prochain, s'il a des défauts, risque de nous corriger maladroitement, durement, pas comme il faut. Alors là, ça donne les scènes de ménage classiques. C'est toujours pareil avec toi, tu fais jamais attention à. Alors, c'est pas vrai, lundi dernier, j'ai fait attention. Mais la question n'est pas de savoir si c'est toujours ou pas toujours. On vous fait remarquer que vous êtes inattentif. Et ça, c'est vrai. Il faut payer à prix d'or celui qui se met en colère contre vous. Bien sûr, le bon Dieu ne veut pas la colère, mais le bon Dieu s'en sert. Profitons-en. Profitons-en. Nous avons toujours tendance à corriger les autres. Nous aimons corriger les autres. Seulement, corriger les autres ne peut être bon que si c'est une œuvre de charité fraternelle. Corriger les autres, ça s'apprend. Puisque nous reprochons aux autres de nous corriger durement et maladroitement, alors admettons que nous avons un défaut et que nous avons notamment le défaut de corriger les autres maladroitement, pas quand il faut, pas comme il faut, pas sur ce qu'il faut, et apprenons à corriger, donc apprenons à nous faire corriger. Ça me paraît un point fondamental. Pinkers commence avec les premiers degrés, admettre que les autres ont un défaut, ça nous fait un petit peu rire. Quand il arrive au quatrième degré, à accepter que les autres nous corrigent, là, ça pique. Et je vais aller plus loin, il faut les remercier. Il faut savoir demander pardon. C'est toujours pareil avec toi, tu fais jamais attention. Au lieu de répondre, enfin quand même, tu devrais savoir que je fais quand même attention, enfin, tu es mon épouse chérie, oh ma chérie, que j'en suis désolé. Eh oui, que j'en suis désolé. Oui, mais tu dis ça, mais, ah oui, évidemment, elle est peut-être un petit peu agacée. Alors on répond rien, puis on se corrige de manière à ce qu'elle voit que c'était sincère. Reconnaître que notre frère a au moins une qualité. Sixième degré, reconnaître que notre frère a au moins deux qualités. Et les reconnaître, ça veut dire les louer. Les louer. Un excellent éducateur qui s'appelle Timon David dit « Les éducateurs n'aiment pas louer les autres éducateurs parce qu'ils ont l'impression que ça va détacher l'affection des enfants d'eux-mêmes vers celui qui va être loué. Si je chante les louanges de l'autre, eh bien ça veut dire que j'incite l'enfant à aller vers l'autre et donc à se détacher de moi. » Oui, mais c'est pas vrai, dit Timon David, c'est absolument pas vrai. L'enfant sent bien les choses. Et quand on loue les qualités de l'autre, il est heureux qu'on les loue, puisqu'il sait bien que ce sont des qualités. Et ça ne diminue pas celui qui loue l'autre, au contraire, ça le grandit. Il sait voir le bien. On peut faire confiance à celui qui loue les autres, puisqu'il sait voir le bien. Et qu'il ne le cherche pas pour soi-même. Je vais aller plus loin. Le méchant a des qualités. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre, Les aumôniers de la guillotine. C'est un livre très intéressant sur les mauvais prêtres. Les mauvais prêtres qui, sous la Révolution française, ont été des mauvais prêtres. Parce qu'ils ont été schismatiques, parce qu'ils ont accepté la Révolution, parce qu'ils ont été faibles et qu'ils ont eu peur. Il y en a un, c'est pas difficile. À chaque fois qu'ils craignaient d'être arrêtés, ils dénonçaient un confrère. C'est surprenant de voir comment cet homme essayait malgré tout de résister au mal. Quand le danger était passé, alors il reprenait tout le bien qu'il pouvait faire dans son ministère. Pourquoi il faut remarquer cela? Parce qu'il y a un plan de Dieu sur les autres. Parce que nous ne jugeons pas les autres uniquement par rapport à nous. Nous avons un plan de Dieu et nous devons être émerveillés que Dieu fasse de si belles choses chez des méchants. Il y a ce que nous, nous appelons des mauvais prêtres, évidemment, on est bien obligé de les appeler des mauvais prêtres puisque nous sommes dans la même situation aujourd'hui, parce que ce sont des prêtres jureurs que nous avons aujourd'hui, une grande majorité de prêtres jureurs. Bien sûr, alors nous avons dû défendre la vérité, nous avons dû protéger, nous avons dû, il a bien fallu dénoncer le mal. Il faut bien évidemment dénoncer le pécheur, puisque le péché vient par le pécheur, et puis parce que le mal vient par cet homme-là. Les sermons et les discours des pères de l'Église sont pleins de dénonciations, pas seulement du péché, mais du pécheur. C'est une évidence. Quand on doit protéger les enfants, on dit « je ne veux pas que tu ailles avec tel oncle, je ne veux pas que tu ailles avec telle personne, je veux pas que... » On ne dit pas « je ne veux pas que tu ailles avec les gens qui ?» Parce que l'enfant, il ne comprend pas. Je t'interdis d'aller avec un tel. On est bien obligé. Et cependant, chez un tel, Dieu a maintenu des qualités. Il se sert de qualités. Il veut faire briller des qualités. Pourquoi il veut faire briller les qualités ? D'abord pour sa gloire. D'abord pour sa gloire. Dieu est tellement puissant que même le plus méchant n'arrive pas à tout détruire de l'œuvre de Dieu en lui. Puis parce que cette bonté est une vraie bonté, vous avez eu des aumôniers de la guillotine qui ont eux-mêmes été guillotinés à cause de leur ministère. Et puis parce que Dieu veut les convertir. L'archevêque de Paris, schismatique, archi-schismatique, qui collaborait avec la Révolution, enfin il est... On pourrait dire qu'il a tout fait. Ben non, il n'a pas tout fait. Il n'a pas fait tout le mal qu'il aurait pu faire. Il a fini par être arrêté, par être guillotiné. Voilà, quand on est face à la mort, on réfléchit, puis autant ne pas tout perdre. Il s'est réconcilié avec Dieu, il s'est réconcilié avec l'Église, il a été absous de son péché parce qu'il s'est confessé à un simple prêtre. Il a demandé l'absolution de l'excommunication, il est mort réconcilié avec l'Église. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Si nous voulons gémonie des hommes comme cela, nous empêchons la conversion. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sévère envers lui. Bien sûr qu'à cet évêque-là, à cet archevêque-là, on lui dira « moi je ne vous connais pas mon Seigneur, je ne veux rien avoir avec vous ». Et cependant, on reconnaît qu'il y a du bien et que le bon Dieu fait du bien. Monseigneur Williamson, depuis que nous avons quitté la fraternité Saint-Pinis, très régulièrement nous fait la leçon sur ces points-là et il a raison. Dieu continue à faire du bien dans l'Église moderne. Dieu continue à faire du bien pour les pauvres victimes de la messe moderne, pour les pauvres victimes des mauvais pasteurs. Dieu continue à faire du bien avec les mauvais pasteurs. Et pourquoi Mgr Williamson a-t-il eu raison de dénoncer cela ? Parce que Mgr Lefebvre était passé le premier en dénonçant tout ce qui n'allait pas, pour nous protéger, pour montrer ce qui n'allait pas. Et puis nous, malicieux comme nous étions, nous en avons conclu qu'il n'y avait que nous de bien, que tous les autres étaient mauvais, que s'ils étaient mauvais, c'était pas la peine de s'occuper du bien, il n'y en avait pas chez eux, ils pouvaient pas en faire, ils étaient de l'autre côté, ils étaient des modernistes, ils avaient une mauvaise messe, ils étaient tout. Et que nous, ah ben non, nous, on n'a pas ce problème. Et finalement, qu'est-ce qu'on faisait ? J'allais dire, on devenait ecclésio-vacantiste. C'est-à-dire, vous avez des cédés-vacantistes qui ne reconnaissent pas qu'il y a un pape, et nous, nous disions, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus que nous. Et le bon Dieu nous fait la leçon. Tu ne veux pas reconnaître le bien là où il est ? Tu ne veux pas voir le bien là où il est ? Tu ne veux pas voir des qualités même chez les pécheurs ? Ah ben, tu vas voir un petit peu ce que tu es, toi. Tu as le cœur endurci. Acquérir pour nous les qualités que nous avons remarquées chez les autres. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, j'espère quand même que vous n'allez pas prendre les aumôniers de la guillotine comme modèle. Prendre ces hommes-là comme modèle, non. Mais prendre leur qualité pour les acquérir, oui. Oui, fréquenter les prisons, se préoccuper, réconforter ceux qui sont découragés, oui. Huitième et neuvième degré, et c'est là où Pinkhoff veut en arriver, et c'est là où c'est important. Découvrir le Seigneur derrière les qualités de nos frères. C'est ce que je viens de vous dire, j'ai un petit peu anticipé. Découvrir le Seigneur derrière les qualités de nos frères. Tout vient de Dieu, le bon Dieu agit, le bon Dieu fait du bien, le bon Dieu maintient le bien. Je sais bien que c'est un exercice délicat, et je sais bien qu'il est facile que je sois compris à l'envers, je ne vais pas me mettre à chanter les louanges de ceux qui font du mal. Je ne vais pas vous dire d'aller fréquenter n'importe qui. Et cependant, dans quelle situation êtes-vous, vous, quand vous êtes dans le monde? Surtout quand vous travaillez dans des entreprises, encore quand vous êtes artisan, vous êtes tout seul, vous avez choisi vos collaborateurs, bien. Et quand vous êtes dans une entreprise, quand vous travaillez à plusieurs dans un bureau, à plusieurs dans une institution, et vous passez votre temps à fréquenter des gens qui n'ont pas la foi, qui sont pas mariés alors qu'ils vivent ensemble, qui ceci, qui cela, qui en plein. Ils ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons. Alors Dieu veut les convertir. Dieu veut toujours les convertir. Dieu en convertira un grand nombre. Ils ont des qualités qui sont réelles et qu'on pourrait imiter. Surtout aujourd'hui, on constate dans l'Église moderne, bien sûr, elle est moderne, elle est tout ce qu'on veut, on est tout à fait d'accord. Elle est dangereuse, on est tout à fait d'accord. Le premier problème de l'Église moderne, sa première erreur, sa première faute, c'est de ne plus croire au Christ roi. Et c'est gravissime, puisque nous demandons dans le Notre Père que le règne de Jésus-Christ arrive. Et eux, ils ne croient plus au règne de Jésus-Christ. Ils n'y croient plus, n'empêche que le peu qu'ils peuvent encore sauver du règne de Jésus-Christ, ils essayent de le sauver quand même, et ils se débrouillent, et puis c'est pas à nous de juger. Pas à nous de juger. Découvrir le Seigneur derrière les défauts de nos frères. Et j'irais même jusqu'à dire derrière les péchés de nos frères. C'est pas difficile, enfin pas difficile aussi, c'est très difficile à faire. Mais c'est pas trop difficile à prouver. Nous l'avons chanté le soir du samedi saint. Bienheureuse faute. Bienheureuse faute d'Adam et Ève. La plus grande faute, un des plus grands péchés qui soit. Oui, le plus grand péché qui soit. Aussi bien en lui-même que dans ses conséquences. Et nous chantons « Bienheureuse faute ». Pourquoi ? Parce qu'elle nous a valu un tel rédempteur. Adam et Ève ont été absous de leur péché très tôt. Le bon Dieu leur a restitué son amitié. Et le Seigneur agit derrière les péchés de nos frères. Bien sûr qu'il ne les veut pas. N'empêche qu'il agit derrière les péchés de nos frères. Il y a là un plan de Dieu et nous devons voir ce plan de Dieu. La crise dans l'Église, c'est affreux, c'est grave, c'est une offense au Seigneur. Le bon Dieu l'a permis. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu veut ? Il faut nous poser la question. Dans une situation aussi affreuse, horrible, le bon Dieu veut déjà notre fidélité. Avant d'aller corriger tout le monde, le bon Dieu veut déjà notre fidélité. Et justement, dans la crise actuelle et dans les difficultés du monde moderne, qu'est-ce que nous cherchons ? Nous sommes toujours un peu égoïstes. Nous cherchons nos aises. Nous voudrions ne pas trop souffrir. Nous voudrions Et qu'est-ce que nous demande le bon Dieu ? Il nous demande le courage des martyrs, il nous demande l'esprit des martyrs. Je vous ai fait des sermons sur le martyr. Je vous ai montré pourquoi le martyr était l'achèvement le plus glorieux d'une vie humaine. On a combien de martyrs qui ont remercié leur bourreau, qui ont embrassé leur bourreau, qui ont remercié le bourreau. Saint Thomas More a payé le bourreau pour le remercier. Combien de saints ont remercié le bourreau de les envoyer au ciel ? Voyons le bien derrière le mal. Bien sûr, ce que je vous dis est surprenant, mais vous savez que c'est vrai. C'est dangereux, mais c'est pas plus dangereux que l'attitude inverse. C'est même plutôt moins dangereux que l'attitude inverse. On avait l'habitude de dire il y a les bons et les mauvais. Les bons c'est nous, les mauvais c'est les autres. Ce que je vous dis est dangereux, mais l'inverse est encore plus dangereux. Ce que je vous dis est surprenant, mais c'est la preuve justement qu'il y avait peut-être un obscurcissement de notre esprit, un endurcissement de notre cœur. Monseigneur Lefebvre a été un modèle pour ça. Les cédévacantistes lui reprochaient d'aller discuter avec le pape. Le pape est mauvais, vous devriez avoir aucun contact avec lui. Et Monseigneur qui répond, enfin, si je peux faire du bien quand même, et puis si je le convertis, on sera content que j'ai converti le pape. Et il n'a peut-être pas converti le pape, mais il a converti des foules par sa bonté. Veritatem facientes in caritate. Faire la vérité dans la charité dans la vérité. Le vrai et le bien sont inséparables. Et si le vrai n'est pas bon, est-il vraiment vrai ? On voit toujours que si la bonté n'est pas vraie, elle n'est pas vraiment bonne. Ça, tout le monde le sait. Mais si le vrai n'est pas bon, est-il vraiment vrai ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.